Nous voici donc avec le dimanche des rameaux. Au début de la célébration, nous avons accueilli Jésus comme Messie en levant nos rameaux et en chantant Hosanna au plus haut des cieux. Mais voici que la liturgie, alors que nous devrions de fait acclamer un super messie, super fort, super puissant, qui allait régler tous nos problèmes, on nous offre la lecture du récit de la passion de notre messie, notre sauveur. Tout le contraire de ce que nous attendions. Je vous propose pour cette méditation de nous arrêter particulièrement à tous les personnages que Jésus va rencontrer sur ce chemin. Et qu'est-ce que ces personnages disent de l'être humain? C'est tout d'abord au moment de la scène, au moment du dernier repas, où Jésus donne son corps et son sang, un moment ultime. Et voilà que les disciples se querellent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Alors que Jésus vient de faire l'acte le plus extraordinaire, donner sa vie, il montre l'enseignement, être serviteur, être presque inexistant, eux, les disciples, après 3 ans de formation auprès de Jésus, ils se querellent pour être le premier. Je veux être le premier. Voilà l'une des très grandes tentations de ce monde. Et nous savons bien que, au fur et à mesure, les disciples n'apparaissent plus dans le récit. Ils disparaissent, ils ont peur. Ensuite, nous sommes à Gethsémani, où Jésus va être en prière intense avec le Père. Et pour cela, il demande à 3 de ses plus proches disciples. C'est vraiment ses 3 amis, Pierre, Jacques et Jean. Ils sont toujours là pour les moments les plus importants. Et là, pour le moment intense de la prière de Jésus avec son Père, où il leur demande simplement de veiller, ils s'endorment. Ils sont dans l'incapacité de tenir. Nous trouvons ensuite Judas, un autre disciple. Et Jésus va lui dire, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Être capable de trahir même ses disciples, ses amis, excusez, ses plus proches. Cela peut aussi être en nous. Puis, les soldats qui viennent avec des bâtons et des épées. Alors qu'ils connaissaient bien Jésus, ils l'avaient vu souvent au temple de Jérusalem. Ils savaient bien qu'il n'y avait rien à craindre, que Jésus était absolument non violent. Il va même guérir l'oreille de Malthus. Mais ils ont peur. Au début du récit, Pierre faisait le coq. Mais Seigneur, je ne te lâcherai, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Et là, uniquement parce qu'on évoque le lien qu'il a avec lui, il renie par 3 fois. Cette difficulté de l'humain d'être reconnu comme une connaissance de celui-ci ou de celle-là. La mise à l'écart, l'abandon. Mais on sait qu'il sera quand même capable de pleurer amèrement, une fois qu'il aura vu le regard de Jésus sur lui. Car c'était un regard de tendresse. Ces hommes, ces soldats qui gardaient Jésus, qui ne connaissaient rien, ils n'avaient rien contre lui, eh bien, ils ne peuvent pas s'empêcher de se moquer de lui, de le rouer de coups et de blasphémer sur lui. Notre capacité à dénigrer les autres, même si on ne les connaît pas, même si on n'a rien à voir avec eux. Les grands chefs du Conseil suprême religieux, d'un bout à l'autre, ils cherchent à faire mourir Jésus. Eux qui sont les représentants de Dieu, Dieu de la vie, ils vont chercher la mort. Eux qui devraient mettre la vie en exergue, la faire vivre, ils tuent. Ne sommes-nous pas parfois à l'opposé de ce que nous devrions être? Pilate, c'est l'homme tout-puissant du lieu. C'est lui qui a le droit de vie et de mort sur les citoyens. Alors oui, pendant 3 fois, il a cherché à défendre Jésus. Il a fait de son mieux, dirons-nous. On comprend assez fortement son dilemme. Est-ce que j'accepte carrément qu'il y ait une révolution, une émeute dans la ville, ou est-ce que je laisse partir? Mais pourtant, il savait qu'il était juste. Et à cause de ce juste, il va faire une injustice fondamentale. Tuer l'innocence. Il est parfois difficile de tenir des responsabilités importantes. Pareil pour Hérode, qui ne s'intéresse qu'à lui-même, et qui aurait bien voulu que Jésus fasse des miracles histoire de se faire mousser. Homme inintéressant au possible. La foule, il y a une semaine, chantait « Hosanna, Hosanna, voici le Messie ». Et maintenant, on entend une foule qui dit « Crucifie-le, crucifie-le ». La capacité d'une foule à tergiverser et à être retournée comme une crêpe. Mais il y avait tout de même une foule qui suivait Jésus, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur Jésus. Cela touche aussi notre impuissance de ne pas savoir quoi faire. On voit bien qu'il y a de l'injustice, mais que faire? Parfois simplement là dans la prière, dans la compassion, dans le déchirement avec celui qui est condamné injustement. Enfin, les deux malfaiteurs, découvrant le chemin nécessaire pour arriver à être sauvés, en tout cas l'un des deux, il reconnaît qu'il a fait du mal, qu'il n'a pas été bon, et il demande à Jésus de se souvenir de lui. Dans tout l'évangile, il est le seul à le nommer uniquement par son prénom. On aurait pu voir Zachée qui disait, ou Bartimée, Seigneur Jésus. Mais il y a quand même encore le titre de Seigneur. Ici, ce condamné au plus bas qui est en train de mourir sur la croix, qui souffre déjà, il a enlevé tous les titres. Il a résumé Jésus. Arriver à cette intimité avec le Seigneur. Nous avons aussi, lorsque Jésus est mort, ce centurion qui dit « Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. » Parfois, ce n'est qu'après coup qu'on prend conscience des personnes qui étaient là à côté de nous et qu'on n'avait pas vu la richesse de la personne. Et puis Joseph d'Arimathie, membre du conseil, qui a dû bien souffrir à chaque fois qu'il entendait tous les autres hurler contre Jésus, qui n'avait pas les moyens de se faire entendre pour faire changer la donne. Il prend soin du corps de Jésus. Parfois, on peut peut-être aussi louper des combats. Oui, en ce jour où nous chantons à tue-tête Hosanna au plus haut des cieux, il faut reconnaître que notre humanité a bien difficulté à se laisser approcher de Dieu, bien difficulté à se laisser sauver. D'un bout à l'autre de ma méditation, m'est revenue cette question, mais Jésus, pourquoi es-tu venu? Pourquoi restes-tu là? Quand on voit toutes les erreurs des humains, toutes les difficultés à aimer, à prendre position, à défendre la vérité, et pourtant, d'un bout à l'autre, la réponse est la même. Tu nous aimes, Seigneur. Tu ne veux absolument pas renoncer à ton projet initial de faire l'homme à ton image. Tu veux que nous participions à ta vie divine. Toi, tu es cet homme, ce Dieu, qui est digne de foi, qui ne renonce pas devant les difficultés, qui n'a pas peur, qui va jusqu'au bout, qui donne réellement ta vie pour que nous ayons la vie. Alors en ce premier jour de la semaine sainte, Seigneur, nous te confions cette dernière ligne droite qui va encore nous faire passer par le don de ta vie, par ta souffrance, par ta passion, pour arriver jusqu'à la résurrection. Donne-nous cette grâce d'être des êtres renouvelés pour vivre pleinement ton amour.